France Musique. Musicopolis. Un mercredi ou un vendredi saint, vers 1638, Rome, chapelle Sixtine. On n'a pas de date précise de la composition du Miserere d'Allegri. Certains disent sans doute en 1638, mais de façon certaine, en tout cas, entre 1629 et 1652, puisque c'est la période durant laquelle Gregorio Allegri a été chanteur dans la chapelle papale, qui se fait entendre à la chapelle Sixtine. Une œuvre toute simple d'écriture. Œuvre toute simple d'écriture, disais-je, et qui pourtant a fait fantasmer des générations d'auditeurs et a donné naissance à un véritable mythe. Celles et ceux qui connaissent la musique religieuse de la contre-réforme ou qui ont écouté une récente musicopolis sur un psaume anonyme de 1620 reconnaîtront ici la simplicité d'écriture qui vise à permettre aux paroles d'être clairement intelligibles. Miserere mei Deus secundam magnam misericordiam tuam. Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Lave-moi encore de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je connais mon iniquité et mon péché est toujours devant moi. Sur cette polyphonie, harmonisation toute simple d'une phrase de psaume, on entend déjà ici quelques ornementations discrètes et qui vont s'étoffer au fur et à mesure que le morceau se déroule. De même que de multiples ornements viennent habiller les architectures claires des églises baroques, les ajouts non écrits des chanteurs vont créer ici une nouvelle musique, éphémère, et peut-être pour cette raison encore plus attirante. Et voilà exactement ce qui a donné lieu au mythe du Miserere d'Allegri. Les chanteurs de la chapelle Sixtine, au XVIIe siècle et pendant très longtemps, se sont livrés à leur goût du chant et, aidés par l'atmosphère très spéciale de l'Office des Ténèbres, ils ont donné naissance à une chimère. Miserere d'Allegri, une chimère, vous disais-je. Et en effet, si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter cette œuvre, vous ne l'avez peut-être pas reconnue dans ce que je viens de vous faire entendre, qui en est une interprétation toute récente, celle du poème harmonique de Vincent Dumestre. La version que vous connaissez, c'est peut-être celle-ci. Voilà qui vous parle plus sans doute que la version précédente. Ici, c'est l'interprétation du chœur du King's College de Cambridge, l'un des nombreux chœurs anglais qui se sont fait une spécialité de cette musique, qu'ils chantent d'ailleurs souvent en anglais. Lorsque Sir David Wilcox dirige sa version du Miserere d'Allegri en anglais en 1964 avec le petit Roy Goodman, futur grand chef d'orchestre en soprano solo, il utilise une partition récemment éditée en 1951 par un certain Atkins, spécialement pour s'adapter aux paroles anglaises du Book of Prayer. Dans cette version, il y a une note très aiguë de soprano, un contrut pour être précise. C'est peut-être cette note qui a fait la gloire du Miserere. Et pourtant, il est aujourd'hui confirmé que jamais, du temps d'Allegri, la pièce n'a été chantée de cette manière. Reprenons donc dans l'ordre. Pas en 1638, date probable de composition, du moins à la date de deux manuscrits conservés au Vatican, mais en 1713. Cette année-là, un certain Tommaso Bai, lui aussi chanteur à la chapelle papale et qui vient d'être nommé maître de chapelle, compose à son tour un Miserere qui reprend des éléments de celui d'Allegri. Le Miserere de Tommaso Bai est basé sur celui d'Allegri, mais avec davantage de variations, plus d'élaboration harmonique. En bref, il est un peu plus moderne que celui de son prédécesseur. Les deux pièces sont entendues régulièrement à la chapelle Sixtine, à l'occasion de la Semaine Sainte, le mercredi ou le vendredi. En 1770, 132 ans après la date présumée de composition, entrée en scène d'un nouveau personnage, Wolfgang Amadeus Mozart, 14 ans, en voyage en Italie avec son papa Léopold. Léopold écrit de Rome le 14 avril 70 à son épouse restée à Salzbourg. Il lui raconte qu'il pleut et qu'après avoir entendu le Miserere à la chapelle Sixtine, ils ont été surpris, Wolfgang et lui, par de telles averses que leur manteau n'avait pas encore pris un tel baptême. Léopold Mozart, après avoir raconté à son épouse les rencontres qu'ils ont faites, Wolfgang et lui, au Vatican, en arrive à notre sujet. « Tu as peut-être entendu parler du célèbre Miserere de Rome, lui demande-t-il, tellement estimé que les musiciens de la chapelle ont l'interdiction, sous peine d'excommunication, de sortir la moindre partie de ce morceau, de le copier ou de le communiquer à quiconque. Eh bien, nous l'avons déjà !» Wolfgang l'a écrit de tête et nous l'aurions envoyé à Salzbourg avec cette lettre si nous ne devions être présents pour son exécution. Mais la manière dont on l'exécute fait plus que la composition elle-même et par suite nous la porterons nous-mêmes à la maison. Comme c'est un des secrets de Rome, nous ne voulons pas le confier à des mains étrangères pour ne pas encourir la censure de l'Église. Le 20 juillet 1770, les Mozart, père et fils, arrivent à Bologne, où ils vont rester 3 mois. C'est pendant ce séjour qu'ils rencontrent le Padre Martini, un grand théoricien, compositeur et professeur, et Charles Burney, un Anglais, musicologue et voyageur, qui arpente le continent pour recueillir des documents pour une histoire de la musique. Mozart raconte à Burney ce qu'il a entendu à la chapelle Sixtine. Il lui montre peut-être la partition qu'il a prise en dictée. Peu de temps après, Burney lui-même se rend à Rome. Mais ce n'est pas la période de Pâques et donc il ne va pas entendre le Miserere. En revanche, il en entend parler et il a l'occasion de regarder la partition. Il remarque que l'œuvre est si simple en apparence que ceux qui l'ont seulement vue sur le papier, ce qui est son cas, ne peuvent pas s'imaginer la beauté à laquelle elle doit sa réputation. Dans le livre qui raconte son voyage en Italie, Charles Burney précise bien que le Miserere d'Allegri doit sa réputation à la manière dont il est chanté, et que les chanteurs ont par tradition certaines coutumes, expressions et grâces de convention qui produisent grand effet. Par exemple, enfler ou diminuer les sons, accélérer ou retarder la mesure sur certains mots particuliers. Pourtant, ajoute-t-il, une partie de l'effet produit par cette pièce peut sans doute être attribuée à l'époque, au lieu et à la solennité du moment où elle est exécutée. Le pape et les cardinaux sont tous prosternés à terre. Les bougies de la chapelle et les torches sur la balustrade sont soufflées une par une. Et le dernier vers est chanté par les deux chœurs. les chanteurs diminuent petit à petit jusqu'à ce que le son s'éteigne. La pièce est chantée par des voix choisies qui ont des répétitions fréquentes, notamment le lundi de la Semaine Sainte, qui se passe entièrement à répéter et peaufiner l'exécution. Charles Burney, en rentrant à Londres, publie sa version du Miserere d'Allegri. Pas la version toute simple, mais une version avec des ornements qui sont peut-être ceux que Mozart avait entendus, ou bien des ornements qui lui ont été communiqués par le maître de chapelle de la Sixtine, avec qui il s'est beaucoup entretenu. On entend donc la pièce en Angleterre. Et partout en Europe, sa réputation grandit, d'autant plus que Rome devient une destination touristique et que nombreux sont les écrivains ou musiciens qui passent là à Pâques et rendent compte de ce qu'ils ont vu et entendu. Goethe, Dickens, Mary Shelley, Emerson, parmi les Français, Madame de Staël, Stendhal, Chateaubriand. Le 15 avril 1829, mercredi saint, Chateaubriand écrit à Madame Récamier. « Je sors de la chapelle Sixtine après avoir assisté à Ténèbres et entendu chanter le Miserere. Je me souvenais que vous m'aviez parlé de cette cérémonie et j'en étais à cause de cela 100 fois plus touché. Le jour s'affaiblissait, les ombres envahissaient lentement les fresques de la chapelle et l'on n'apercevait plus que quelques grands traits du pinceau de Michel-Ange. Les cierges, tour à tour éteints, laissaient échapper de leur lumière étouffée une légère fumée blanche, image assez naturelle de la vie que l'écriture compare à une petite vapeur. Les cardinaux étaient à genoux, le pape prosterné. L'admirable prière de pénitence et de miséricorde s'élevait par intervalles dans le silence et la nuit. On se sentait accablé sous le grand mystère d'un Dieu mourant pour effacer les crimes des hommes. Deux ans après que Chateaubriand a assisté à l'Office des Ténèbres, Mendelssohn, à son tour, passe par Rome pendant la Semaine Sainte. Comme l'avait fait Mozart avant lui, il note ce qu'il entend à la chapelle Sixtine. Il remarque que le chœur ne chante pas le miséréré dans le ton de sol mineur, comme il est écrit sur la partition, mais en do mineur, c'est-à-dire plus aigu. Et il note donc, dans cette tonalité aiguë, les ornements qu'il a entendus. 50 ans plus tard, le musicologue William Smith Rockstraw publie un article dans le dictionnaire de musique de Grove sur le miséréré avec un exemple musical. Et il fait une erreur. Après deux mesures en sol mineur, il ajoute les mêmes deux mesures de Mendelssohn, mais celles-ci en do. La même musique, mais plus aiguë. On entend donc, dans ce qu'il écrit, d'abord le motif musical qui commence par un sol, puis le même motif plus aigu, deux fois plus lent, et qui culmine cette fois-ci sur un do aigu, le fameux contrut. Autrement dit, au lieu de choisir entre deux tonalités, plus graves ou plus aiguës, Rockstraw les a juxtaposées, ce qui ne veut plus rien dire, mais qui sonne finalement extrêmement bien. C'est peut-être bien ce do aigu qui a fait la réputation du miséréré. Et quoi qu'il en soit, la partition la plus souvent enregistrée aujourd'hui est une sorte de patchwork qui repose sur des erreurs ou des ajouts successifs. Depuis ces dernières années, plusieurs ensembles ont essayé de revenir à une interprétation qui s'approche de ce qu'Allegri a entendu. Vincent Dumestre, avec le poème harmonique, est revenu à la version de base, ornée selon les techniques en vigueur au début du XVIIe siècle. Oh, Miserere d'Allegri, dans la version du poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dosolm pour les recherches et le site, Claude Niort pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.